bonjour. Le magazine du week-end, c'est chaque samedi et chaque dimanche de l'été. 1h10 pour revenir sur l'actualité nationale et internationale de la semaine avec nos invités. Jusqu'à 13h50, bienvenue à tous. Peut-on avoir un vrai débat démocratique sur le nucléaire alors que la Convention citoyenne pour le climat a exclu le nucléaire de son champ de discussion, alors que la centrale de Fessenheim a fermé cette semaine sans que ni les opposants à la fermeture, ni d'ailleurs ses partisans, aient jamais été véritablement consultés? Le peu d'informations dont on dispose sur le nucléaire permet-il un vrai débat? On en débattra justement avec nos invités aux alentours de 13h10. Pour commencer, cette nouvelle qui rappelle un certain roman d'Orwell avec son commissaire aux archives qui rassemble et détruit les livres s'écartant d'une certaine ligne. Certes, l'image est usée jusqu'à la moelle, mais même à l'heure du tout contrôle numérique, elle fonctionne vraisemblablement encore. C'est à Hong Kong hier que des militants souverainistes, Joshua Hong ou la députée Tanya Chan ou encore l'intellectuel chinoine, ont réalisé que leurs ouvrages avaient disparu des bibliothèques publiques de la ville. Mathieu Laurent l'évoquait à l'instant. Ce sont d'abord les registres en ligne qui leur ont mis la puce à l'oreille, puis le département des services culturels de Hong Kong le leur a confirmé. Leurs livres ne seront plus disponibles à l'emprunt et ne seront plus référencés car ils contreviennent à la loi sur la sécurité nationale entrée en vigueur mardi. Bonjour Alice Ekman.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes analyste responsable de l'Asie à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne et auteur de Rouge vif, l'idéal communiste chinois paru il y a quelques semaines aux éditions de l'Observatoire, et nous sommes également en liaison Skype avec Sébastien Vegue. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS et professeur honoraire à l'Université de Hong Kong. Sébastien Vegue, vous avez peut-être des nouvelles du terrain. Qu'est-ce qu'on sait pour l'instant des premiers effets sur place de la loi sur la sécurité intérieure? Un homme était inculpé vendredi en vertu de cette loi. Pourquoi et est-ce qu'il y en a eu d'autres depuis, à votre connaissance?
Donc effectivement, cette loi a été mise en place, je dirais, avec un effet choc très très fort. Donc c'est vraiment un peu shock and awe, comme on disait à l'époque de la guerre du Golfe. On l'a connu, le texte de loi, seulement le 30 juin à 23h. Elle est entrée en vigueur immédiatement. Et effectivement, dès le 1er juillet, lors des manifestations, comme vous l'avez dit, il y a eu des personnes arrêtées. Et parmi elles, effectivement, une a été inculpée. Donc c'est un homme qui est suspecté d'avoir conduit une moto dans un groupe de policiers en tenant un drapeau avec un slogan qui n'est maintenant plus, enfin en tout cas que le gouvernement ne souhaite plus voir, qui dit « Libérer Hong Kong, révolution de notre temps ». Donc à part ça, effectivement, c'est tout frais, mais donc les premières mesures, c'est effectivement la mise en place de l'appareil parallèle pour gérer la sécurité publique à Hong Kong. Donc le gouvernement central a nommé un responsable, un représentant pour la sécurité nationale à Hong Kong. Donc c'est un responsable du parti du Guangdong qui sera assisté donc de deux adjoints, dont l'un vient du ministère de la sécurité publique et l'autre du ministère de la sécurité d'État, donc c'est les services d'espionnage. L'appareil se met en place. Le gouvernement hongkongais en parallèle a mis en place donc son mécanisme, donc avec un conseil pour la sécurité nationale où siégera le représentant de Pékin, le directeur du bureau de liaison, en plus de la chef de l'exécutif, et un parquet spécialisé. Six juges ont été désignés par la chef de l'exécutif pour traiter les cas de sécurité nationale, mais on ne connaît pas leur nom. Un d'entre eux a choisi de dire qu'il avait été nommé, mais le gouvernement n'a pas indiqué les noms de ces six juges. Et enfin, un département de la police spéciale a été mis en place pour les cas de sécurité nationale. Donc pour l'instant, ce sont les cadres qui se mettent en place. Effectivement, cette nouvelle d'un retrait de livres, bon, d'un petit nombre, mais enfin, effectivement, l'effet symbolique est vraiment extrêmement fort. dans les bibliothèques publiques et encore d'autres mesures. Voilà, enfin, le ministère de l'Éducation a aussi annoncé vouloir conduire un exercice de réévaluation de tous les manuels scolaires. Donc voilà, on peut s'attendre à d'autres annonces de ce type.
En un mot, Sébastien Weg, à partir du moment où il y a inculpation, est-ce qu'il y a automatiquement et qui en décide transfert vers la Chine continentale?
Non, c'est pas automatique. Alors donc effectivement, donc comme vous le rappelez, l'innovation, si on peut dire vraiment inouïe de cette loi, c'est que un certain nombre de suspects peuvent être transférés. Donc il s'agit même pas d'extradition, il y a aucune indication sur les règles formelles à respecter, simplement sur décision du haut représentant du gouvernement central à Hong Kong pour la sécurité nationale, quelqu'un peut être déféré devant un tribunal chinois. Donc c'est pas systématique. La plupart des cas seront quand même jugés à Hong Kong par donc ces 6 juges désignés par la chef de l'exécutif. Donc le gouvernement central et le gouvernement de Hong Kong communiquent plutôt sur l'idée que ce sera une infime minorité de cas qui pourront être jugés en Chine continentale.
Alice Ekman, cette loi sur la sécurité intérieure donc promulguée mardi soir, elle criminalise non seulement les actes mais aussi les activités, ce qui est beaucoup plus large, qui favoriserait d'après elle la sécession, la subversion, le terrorisme et les interférences étrangères. Ce sont des chefs d'inculpation qui sont souvent utilisés par ailleurs par le Parti communiste chinois. Et est-ce que en fait c'est l'extension à Hong Kong du régime de sécurité nationale qui existe déjà au sein de la République populaire de Chine?
Oui, expansion progressive. La Chine avait essayé déjà auparavant d'avancer plusieurs projets de loi, donc le projet de loi d'extradition. Il y avait aussi eu des mobilisations suite à l'arrestation de libraires auparavant. Ce que je voulais dire, c'est que c'est une démarche de long terme qui vise en effet à terme à harmoniser le système politique et juridique chinois pour faire finalement de Hong Kong un territoire comme un autre de Chine continentale, c'est-à-dire de mettre progressivement fin à la spécificité politique et au degré d'autonomie de Hong Kong. C'est une détermination qui provient réellement de Xi Jinping. On a vu cette évolution depuis son arrivée au pouvoir à l'automne 2012, avec une volonté à terme donc de faire évoluer la situation à Hong Kong, et puis aussi en ligne de mire de manière plus lointaine, avec un calendrier différent, mais la situation aussi à Taïwan, même si bien sûr le contexte est très différent. En effet, le texte ouvre 4 crimes, vous les avez mentionnés, sécession, subversion, terrorisme et collusion. Alors, on est en train de voir aujourd'hui, d'analyser la manière dont c'est mis en application, apparemment de manière stricte et dure. Mais ce que ce texte va aussi impulser, c'est finalement un sentiment de peur au sein de Hong Kong. Il y aura certainement encore des mobilisations, des manifestations. Mais le fait que les champs couverts par cette loi sont très larges va avoir un impact certain. Il y aura à la fois, donc, à mon avis, prolongement des manifestations parfois aussi violentes avec une répression forte, mais aussi fuite de ressortissants hongkongais, notamment de responsables politiques. Ça commence aujourd'hui. Et je pense vraiment qu'il ne faut pas s'attendre à un ajustement du côté de Pékin, que c'est une tendance de fond lourde qui va mener à un durcissement dans les prochains mois, les prochaines années, d'autant que le calendrier politique est particulier. Pékin a annoncé cette loi le jour du 23e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, mais aussi l'année prochaine, c'est le centenaire du Parti communiste chinois, et l'année suivante, c'est le 20e congrès du Parti communiste.
Alors, vous évoquiez les ressortissants hongkongais qui commencent à partir. C'est le cas de certains opposants. D'autres ont dissous les structures politiques. Joshua Hong se présente aujourd'hui comme ancien secrétaire général de son petit parti qui prône l'autodétermination. C'est vraiment au moment où la loi était promulguée qu'il a changé ses statuts, notamment sur les réseaux sociaux, puis qu'il a dissolu le mouvement. Vous parlez de manifestations qui peuvent continuer. Le 1er juillet, c'est vrai qu'il y a eu une manifestation peut-être beaucoup plus clairsemée que les manifestations qui rassemblaient des milliers de personnes l'année dernière. En tout cas, sur cette loi de sécurité nationale, Sébastien Weg, la loi fondamentale de Hong Kong quand même garantit le droit de manifester et de s'exprimer. La chef de l'exécutif, Carrie Lam, dit qu'elle continuera à s'appliquer. Donc comment les deux peuvent peuvent exister ensemble, peuvent coexister ensemble. Cette loi fondamentale de Hong Kong et la loi sur la sécurité intérieure.
Voilà, donc c'est effectivement c'est une des énormes difficultés soulevées par cette loi, donc qui a été promulguée selon une manière qui, du point de vue de beaucoup de juristes, est anticonstitutionnelle. Donc elle est incompatible avec la loi fondamentale et avec la déclaration conjointe sino-britannique de 1984. Et effectivement, elle est non seulement formellement contraire donc aux propres règles constitutionnelles chinoises, mais elle crée aussi d'énormes conflits potentiels avec le cadre juridique à Hong Kong. Donc comme on l'a dit, la plupart des cas, probablement, sans doute, seront quand même jugés à Hong Kong. Et donc là, effectivement, les protections sur la liberté d'expression, les droits fondamentaux devraient s'appliquer. Alors, j'ai assisté hier à distance à un séminaire à la faculté de droit de l'Université de Hong Kong, où il y avait notamment des participants de Chine continentale, notamment un certain nombre de juristes de Pékin qui conseillent le gouvernement central. Et l'un d'entre eux a répété que cette loi ne représentait pas un amendement de la loi fondamentale, elle n'est pas au même niveau que la loi fondamentale, c'est malgré tout une loi qui est subordonnée à la loi fondamentale. Donc ça, c'est quand même un point important à noter, puisque c'est dans l'intention du législateur, ça pourrait être invoqué par les tribunaux. On s'attend quand même à ce que les tribunaux hongkongais résistent un peu à l'application de cette loi, ou en tout cas essaye de faire valoir la jurisprudence hongkongaise, donc à la fois les protections sur les droits et la jurisprudence qui est très importante dans le système de common law. Pour pointer quelques problèmes, effectivement, les quatre chefs d'accusation, les quatre crimes possibles ne sont pas définis forcément selon les mêmes modalités, mais alors en particulier le crime de sécession, donc de mettre en doute l'unité de la Chine, ne nécessite pas de violence. Donc là, effectivement, on voit déjà un conflit potentiel direct avec la liberté d'expression. Donc simplement mettre en doute l'unité de la Chine, donc qui comprend, je le rappelle, enfin comme le disait aussi Alice, donc Taïwan et d'autres territoires contestés, peut être passible, même sans violence ou appel à la violence, d'une procédure de sécurité nationale. Et les autres crimes comme la subversion, le terrorisme ou la collusion comportent aussi des clauses très, très vagues sur l'incitation. Alors même si le crime lui-même requiert une intention, soit des moyens illégaux, soit une intention illégale, l'incitation peut également être criminalisée, donc qui, elle, ne requiert pas le même, le même niveau d'illégalité. Donc ça, tout ça, ce sont effectivement des motifs de grande inquiétude parmi les médias étrangers, les ONG, les universitaires. Et donc là, tout le monde est en train d'essayer de comprendre. Il n'y a pas encore eu de cas devant les tribunaux. Tout le monde est en train d'essayer de comprendre comment ça va fonctionner.
Alice Ekman, Sébastien Weck disait que cette loi est incompatible avec le principe un pays, deux systèmes, qui est celui qui régit Hong Kong depuis sa rétrocession à la Chine en 97, mais acté 13 ans plus tôt, en 84, par le premier ministre chinois de l'époque, Zhao Ziyang et Margaret Thatcher. À Hong Kong, on dit un pays, un système, 2 ou 3 aujourd'hui. Est-ce que la différence, la décimale, s'amoindrit encore avec cette loi ?
Progressivement. Il faut bien noter aussi qu'il y a une réelle différence de culture politique, de système politique entre la Chine continentale et Hong Kong. Ça, c'est évident, mais la culture du Parti communiste chinois n'est pas réellement dans la nuance aujourd'hui. Il y a une perception aussi là qui n'est pas nuancée, vise à dire que à Hong Kong les manifestants seraient manipulés par des forces étrangères et donc Hong Kong serait presque une base américaine de la CIA, ou que ce serait un outil manipulé par des forces occidentales qui finalement voudraient la déstabilisation de Hong Kong, mais à terme de la Chine. On touche à des théories du complot qui sont relayées au niveau officiel, et ça explique en partie l'inclusion dans le texte du quatrième crime, collusion avec une puissance étrangère. Ça explique aussi que ce projet de loi prévoit un contrôle plus renforcé des ONG, des journalistes étrangers. Donc il y a aussi cette vision de l'étranger un peu manichéenne, mais qui est très forte. Là, je parle au sein du Parti communiste chinois, je ne parle pas de la majorité de la population chinoise, même si parfois les éléments de langage et la propagande infusent progressivement l'opinion publique, bien sûr. Mais il y a vraiment cette vision vision qu'il est temps de faire finalement ce que le Parti communiste devait faire depuis longtemps à Hong Kong, c'est-à-dire mettre fin à cette collusion avec les forces occidentales aussi, et puis surtout s'opposer vigoureusement à toutes les réactions et déclarations étrangères, notamment des pays considérés comme occidentaux, qui mettraient en cause ce projet de loi. Et on voit vraiment là un rapport œil pour œil, dent pour dent, avec la porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois qui met en cause le règne colonial des Britanniques, qui explique qu'il est temps maintenant que Hong Kong ne soit plus une base des forces étrangères, notamment américaines. Enfin, on a des échanges très très offensifs qui nous amènent vraiment à penser que la situation va se durcir dans les prochains mois.
C'est vrai que cet accord de rétrocession, c'est un accord déposé à l'ONU, donc ça pose quand même, ce qui est en train de se passer, un problème de droit international. Mais la Chine est membre du Conseil de sécurité, donc même si le Royaume-Uni décidait de l'invoquer devant l'ONU, Pékin a de toute façon un droit de veto. Alice Ekman, quand la rétrocession a été effective en 97, pourquoi la Chine n'a pas tout de suite resserré l'étau sur Hong Kong une fois les Britanniques partis? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi le Parti communiste chinois décide aujourd'hui qu'il faut en finir avec ce statut spécial?
Deux choses. Tout d'abord, c'est pas le même secrétaire général du Parti communiste chinois. Aujourd'hui, c'est Xi Jinping qui est au pouvoir, qui est très ambitieux, notamment vis-à-vis de Hong Kong, et on a parlé de Taïwan également, qui a une politique étrangère très offensive, mais aussi qui a durci le contrôle au sein du parti. Parce que tout à l'heure, je parlais de la peur qui régnera probablement à Hong Kong dans les prochains mois, les prochaines années, compte tenu de cette loi. Mais la peur règne aussi au sein du Parti communiste chinois, qui a été recadré depuis 2012 avec un vocabulaire assez offensif.
Parce qu'au sein du PCC, peut-être que certains trouvent contre-productif ce qui est en train de se passer à Hong Kong, mais est-ce qu'ils en voient au chapitre?
Pas du tout. Alors là, clairement, aujourd'hui, je ne vois pas qui oserait, au sein du parti, s'élever contre cette loi, compte tenu, encore une fois, de la peur qui règne. Xi Jinping a appelé à renforcer les sessions de critique et autocritique entre camarades, à tourner la lame du couteau vers soi-même, c'est-à-dire à se dénoncer, se dénoncer. Même la loi encourage à la dénonciation à Hong Kong. Il faut rogner l'os jusqu'à la moelle, je cite Xi Jinping, qui appelle à renforcer la pureté idéologique du parti. On est vraiment dans ce registre-là aujourd'hui au sein du Parti communiste chinois. Avec, encore une fois, cette vision assez, on va dire, antagoniste vis-à-vis des États-Unis, des puissances européennes. Et vous avez parlé tout à l'heure de la réaction des Britanniques, si les Britanniques réagissaient. En fait, ils réagissent déjà à l'ONU, puisqu'il y a eu 27 États menés par le Royaume-Uni, mais aussi incluant la France et le Japon, qui ont invité la Chine à réexaminer cette loi, qui menace, je cite, les libertés. Mais au même moment, 53 autres pays menés par Cuba soutiennent la Chine vis-à-vis donc sa décision de promulguer cette loi. Ils ont tous tenu cela il y a quelques jours au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Si je cite cela, c'est pas pour dire que ce groupement c'est pas pour porter un jugement de valeur. Bien sûr, c'est en termes analytiques. Ça montre bien que le rapport de force a changé. On parlait, il y a eu un changement de dirigeant en Chine, et donc qui explique aussi, on va dire, la vision différente du calendrier vis-à-vis de Hong Kong, mais aussi la puissance chinoise, puissance économique, mais aussi puissance diplomatique. La Chine, depuis plusieurs années, essaye au maximum de rassembler un nombre croissant de pays autour de ses positions. Elle appelle ça élargir son cercle d'amis, pour à terme marginaliser les pays qui viendraient critiquer la Chine. Aujourd'hui, on a ce rapport de force, 50 de pays qui soutiennent la position chinoise vis-à-vis de Hong Kong, 27 pays, 20 de pays qui s'y opposent. Mais on avait le même rapport de force sur le Xinjiang en octobre 2019, avec la Chine qui avait rassemblé sous forme d'activisme diplomatique finalement assez efficace, rassemblé plus de 50 de pays pour soutenir sa position dans le Xinjiang, alors que 20 pays a demandé une enquête sur le déroulement de la situation là-bas.
Et cette loi sur la sécurité nationale pour Hong Kong, elle est promulguée dans un instant, un moment critique peut-être pour la Chine, un moment où elle est mise en cause pour sa politique sanitaire pendant le coronavirus, où elle doit affronter des problèmes économiques et sociaux très importants. Est-ce que vous diriez que c'est un aveu de faiblesse finalement, cette démonstration de puissance?
Pas que. Je pense que c'est le reflet d'une détermination très forte de Xi Jinping de tracer son chemin, quelles que soient les critiques internationales, que la diplomatie d'ailleurs aime à souligner comme minoritaire par rapport aux chiffres qu'on vient de mentionner. Non, cette affirmation vient de la perception au sein du Parti communiste chinois. Depuis trop longtemps, la Chine n'a pas défendu assez vigoureusement ses intérêts, que depuis trop longtemps, les forces occidentales hostiles, encore une fois, cherchent à démocratiser la Chine, à libéraliser, que non seulement il faut leur dire stop, et non seulement les puissances étrangères hostiles qui ont humilié la Chine devraient arrêter de donner des leçons à la Chine, mais qu'à l'inverse, il ne faut pas hésiter de donner des leçons à ces puissances étrangères et à rappeler finalement que la Chine a sa propre voie, ses propres théories, notamment marxistes, et Xi Jinping appelle à un renforcement des quatre confiances en soi. Et donc ça c'est une tendance de long terme qui date depuis 2012, qui va se prolonger probablement dans les prochaines années parce qu'on ne connaît pas la fin du mandat de Xi Jinping puisqu'il a amendé la constitution en 2018 sur la durée traditionnelle du mandat présidentiel. Et on va vraiment, je pense, arriver à entrer dans un rapport de force international particulièrement violent qui va mener vraiment à une Chine qui cherche à être puissance normative, c'est-à-dire à marginaliser un groupe de pays au sein du système onusien, mais de manière générale au sein des organisations internationales.
Sébastien Weg, à Hong Kong, il reste quand même des partis politiques distants de Pékin et qui devraient, a priori, on va voir comment ça se passe, mais participer aux élections du mois de septembre, les élections locales en novembre ont vu un raz-de-marée pour le camp dit démocrate ou le camp souverainiste, aux dépens des partis pro-gouvernementaux et pro-chinois. Cette opposition qui existe aussi au Parlement, est-ce qu'elle a encore des outils pour barrer la route à certains projets de Pékin?
Juste pour revenir une seconde sur ce qu'a dit Alice précédemment, je voudrais ajouter juste quelques points. Donc, effectivement, on dit souvent que la Chine est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, membre permanent du Conseil de sécurité, mais on a quand même l'exemple de la Russie qui a été sanctionnée, qui est aussi membre permanent, qui a été sanctionnée par l'Union européenne. Donc, il ne faut pas non plus se convaincre que les pays occidentaux n'ont aucun moyen d'imposer des sanctions. Donc, pour la violation du traité de dénucléarisation de l'Ukraine et l'occupation de la Crimée. Donc ça, c'est un point. Second point sur la procédure au Conseil des droits de l'homme évoquée par Alice, il faut noter aussi que les pays de l'Union européenne ont été divisés environ moitié-moitié. Donc la moitié a voté pour la résolution présentée donc par le Royaume-Uni. L'autre s'est abstenue, donc dont l'Italie, l'Espagne, un certain nombre de pays d'Europe centrale et orientale, le Portugal, je ne les ai pas tous en tête. Donc ça, c'est aussi quelque chose à garder à l'esprit. Donc une autre précision très rapide sur l'opinion publique en Chine. Alors il y a eu aussi avant-hier un symposium à Pékin de juristes où, selon les sources donc de seconde main, un certain nombre de juristes chinois auraient exprimé des critiques sur quatre points donc dans cette loi, notamment sur la criminalisation de la liberté d'expression. Les vices de procédure, etc. C'est pas pour dire que Xi Jinping est en danger, mais il y a quand même des personnes dans, disons peut-être pas au sommet de l'État, mais dans l'entourage plus large, en particulier ce milieu gris universitaire officiel.
Ce sont vraiment des conseillers du chef de l'État, ce sont des conseillers du parti qui se sont prononcés hier dans ce symposium.
Non, c'est pas des conseillers, c'est des juristes. Donc c'est des profs de droit dans des universités, mais certains d'entre eux siègent, par exemple, au comité de la loi fondamentale, donc qui doit valider les modifications de la loi fondamentale de Hong Kong. Donc c'est des personnes qui peuvent avoir un statut semi-officiel. En tout cas, c'est des personnes qui éventuellement ont quand même des relais auprès du pouvoir. Alors c'est pas pour dire que ces interventions auraient le moindre effet, mais c'est pour dire qu'il faut pas non plus que nous on se persuade que l'opinion publique chinoise est totalement monolithique et serait exaspérée par Hong Kong et finalement ravie de voir que finalement on donne une leçon hongkongais. Donc c'est simplement à garder en tête. Donc pour en revenir à votre question...
L'opposition politique.
Voilà, pardon.
Quelle marge de manœuvre, je vous en prie,
alors,
au contraire.
Donc, effectivement, les législatives en septembre, donc là je dirais qu'on est quand même dans une zone extrêmement incertaine puisque, donc, bon, mon un point de vue assez largement répandu est que cette loi sur la sécurité nationale visait à normaliser un certain nombre de pratiques que la Chine avait instaurées. Donc il y avait des agents de la sécurité nationale qui opéraient à Hong Kong. On a eu un certain nombre de rapports sur des personnes qui ont été interrogées de façon tout à fait extérieure au droit, d'autres personnes qui ont été donc transférées en Chine, là aussi en dépit du droit. Et on a eu, alors pas de façon totalement illégale, mais quand même de façon assez intempestive, des disqualifications donc de membres élus du Parlement et aussi de candidats à différentes fonctions électives. Et donc on peut s'attendre effectivement à une accélération de ces procédures de disqualification. Donc alors avec quel effet, c'est difficile à dire pour l'instant. On peut penser aussi que les électeurs hongkongais seront quand même de plus en plus remontés contre ces entorses, ou alors peut-être démobilisés au contraire. Mais en tout cas, s'ils restent mobilisés au moins dans l'urne, on peut penser effectivement qu'ils voteront pour n'importe quel candidat démocrate, même si le candidat numéro 1, numéro 2 sont disqualifiés. S'il reste des candidats démocrates, ils voteront pour eux. Et donc, malgré tout, l'opposition au Parlement ne disparaîtra pas. Donc ça, c'est quelque chose qui ressemble un peu à Taïwan dans les années 60, où il y avait effectivement encore des élections locales, donc avec plus ou moins d'interférences, mais dans un système donc dit de terreur blanche, donc de loi martiale, où le Kuomintang avait tous les pouvoirs et ne tolérait absolument pas l'existence d'une opposition structurée.
Alice Ekman, les habitants de Hong Kong ne sont pas les seuls concernés par cette loi de sécurité intérieure, puisque ce texte s'applique aussi à l'extérieur de l'archipel. Hong Kong peut demander une extradition. Alors c'est la raison pour laquelle, par exemple, le Canada vient de suspendre son traité d'extradition avec Hong Kong. Mais est-ce que cette disposition prévue dans la loi, c'est selon vous une façon de contrôler le récit sur la Chine à l'extérieur? Est-ce que ça va jusque-là?
Oui, mais il y a déjà différentes actions chinoises qui essayent de contrôler le récit chinois à l'extérieur, avec justement une communication plus offensive des diplomates chinois en poste dans plusieurs capitales, notamment européennes.
Là, on n'est plus dans le soft power avec cette loi sur la sécurité.
Là, non. Et en effet, pour moi, c'est la première étape du renforcement d'une politique d'extraterritorialité de la Chine. C'est-à-dire que d'avoir une approche législative qui permette de mettre en application, au-delà du territoire chinois, des décisions et des lois qui ont été prises et adoptées en Chine. Ce n'est que le début, à mon avis, d'un processus plus large qui est aussi indirectement motivé par la vision chinoise de l'extraterritorialité américaine. Notamment là, c'est sur le plan économique, avec les sanctions économiques, mais la Chine se dit finalement, pourquoi pas nous aussi mettre en place un certain nombre de décisions.
Hong Kong est un peu otage de cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.
Non, c'est des sujets totalement différents. D'accord. Mais le thème de l'extraterritorialité, vraiment, je pense, est émergent en Chine avec une réflexion sur cette question-là. Et du fait que, penser aussi, il y a aussi une vision particulière de la diaspora chinoise. Penser souvent que les citoyens chinois sont aussi des représentants de la Chine à l'étranger, ou par l'intermédiaire d'associations ou de groupements où les hommes d'affaires chinois sont importants. Mais là, c'est autre chose. Là, on parle de Hong Kong, on parle aussi de Taïwan. Et donc, c'est une dynamique plus large. Qui nous fait entrer réellement dans encore une fois, je parle de compétition entre systèmes politiques, parce que ce qui se joue à Hong Kong, mais ce qui se jouera aussi à Taïwan et dans d'autres pays, c'est la compétition très forte entre deux systèmes politiques. Parce que pour la Chine, Hong Kong, c'est un problème local, mais c'est aussi un problème national, dans le sens où les tensions et mobilisation à Hong Kong et l'activisme démocratique à Hong Kong représentent une menace, un effet domino potentiel pour le reste du territoire. Et donc, dans ce contexte-là, les autorités sont prêtes à payer le prix économique de cette loi, le prix économique d'un durcissement politique, avec Hong Kong qui à terme pourrait perdre son statut de place financière compétitive, etc., pour des raisons politiques, parce que c'est un enjeu majeur, politique majeur pour Hong Kong, à la fois en termes de renouveau de la nation chinoise, comme Xi Jinping le mentionne, mais aussi pour des raisons politiques dans un contexte où le parti souhaite, coûte que coûte, rester au pouvoir en tant que parti unique.
Sébastien Weg, Alice Ekman rappelait que le statut de place financière de Hong Kong, il repose aussi sur son indépendance judiciaire. On a toujours pensé que Pékin ne prendrait pas le risque de faire s'effondrer le système hongkongais comme plateforme financière, et on a l'impression qu'aujourd'hui c'est plus tellement un problème pour Pékin.
Effectivement, donc c'est une des grandes surprises de cette loi. On a effectivement pensé que dans la mesure où aucune aucune place financière en Chine continentale ne pourra remplacer Hong Kong, encore moins à l'époque de Xi Jinping. Donc, du point de vue de l'indépendance de la justice, de la transparence des procédures d'audit ou de reporting. Donc effectivement, il y a un risque qu'un certain nombre d'opérations qui avaient lieu à Hong Kong se transfèrent à Singapour, à Tokyo, voire à Londres, et que donc elles échappent encore davantage à la Chine. Donc, effectivement, il y a un calcul qui est que, apparemment, le contrôle sur ces opérations est un risque que la Chine est prête à prendre. Alors, elle, officiellement, elle ne le dit pas. Hein. Elle dit qu'elle continue à soutenir la place financière de Hong Kong. Il y a eu ces derniers jours donc des nouveaux mécanismes d'achat et de vente d'actions en connexion avec les marchés chinois.
Merci.
Voilà, enfin, le risque est là et la Chine est prête à le prendre. Et comme l'a dit Alice, ça nous dit aussi un peu, ça nous révèle un peu sa position vis-à-vis donc de ses priorités. La priorité, c'est la souveraineté, la politique, l'affirmation de la territorialité chinoise. Et si le marché financier en est la victime, c'est peut-être pas si grave.
Bon, en attendant, la Chambre de commerce des États-Unis a fait un sondage auprès des 1300 entreprises américaines qui opèrent à Hong Kong. 70% n'ont aucune intention de déplacer ni leurs activités, ni leurs capitaux, donc les affaires continuent. Merci beaucoup Sébastien Weg d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur d'études à l'EHESS et professeur honoraire à l'Université de Hong Kong. Merci Alice Ekman d'avoir été avec nous en studio. Analyste responsable de l'Asie à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne, et votre livre « Rouge vif, l'idéal communiste chinois » vient d'obtenir le prix du livre de géopolitique 2020. Il est disponible toujours aux éditions de l'Observatoire. Merci.
Jackie Blue lives her life from
Jackie Blue, The Other Mountain, Daredevils. Vous êtes sur France Culture, il est 13h15.
Le magazine du week-end, Julie Gacon.
C'est ainsi donc qu'elle est morte, elle aussi, en chuchotements imperceptibles. La centrale de Fessenheim s'est éteinte dans la nuit du 29 au 30 juin. Le réacteur 2 avait, semble-t-il, anticipé sa disparition en tombant en panne 3 jours avant la date du décès, comme d'autres milliers de fois dans sa vie, à croire qu'il ne voulait pas mourir au dernier moment. Il va falloir maintenant évacuer le combustible nucléaire, vidanger puis décontaminer les circuits primaires, démonter la turbine et la salle des machines, racontait récemment le journal La Croix, avant d'ici 5 ans de démanteler les 2 réacteurs, de broyer le béton de l'enceinte, fin de l'histoire. L'aboutissement de plusieurs années de lutte pour les militants anti-nucléaires qui énumèrent les innombrables incidents en 42 ans de service et un crève-cœur pour certains des 1200 employés de Fessenheim qui se targuent de travailler dans une centrale sûre selon l'autorité de sûreté nucléaire et qui dénoncent une décision politique. Que l'on soit pour ou contre la fermeture de cette centrale, pour ou contre le nucléaire, peut-on réellement se dire informé pour fonder sa position? Un vrai débat démocratique suppose d'avoir des informations, des analyses et des contre-analyses pour prendre des décisions collectives. Le nucléaire semble y échapper. On apprenait encore il y a quelques mois que le gouvernement prévoyait 6 réacteurs supplémentaires dans les années qui viennent. Peut-on avoir un vrai débat démocratique sur le nucléaire? On en débat jusqu'à 13h50 avec nos 3 invités. Nicolas Benvenu, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue au Media Lab de Sciences Po. Vous travaillez depuis 15 ans sur les questions d'énergie. Avec nous en studio également Valérie Faudon, bonjour.
Bonjour.
Présidente de la SFEN, déléguée générale donc de la Société Française d'Énergie Nucléaire. Et nous sommes par téléphone avec Jade Lindgaard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Mediapart et vous avez publié récemment une longue enquête sur la surveillance et sur les intimidations dont sont l'objet les militants anti-nucléaires abusent dans la Meuse, une enquête menée avec votre consoeur du site Reporter, Marie Barbier. Donc merci à tous les trois. Est-ce qu'il peut y avoir un débat démocratique sur le nucléaire? D'abord, est-ce qu'il y a eu un semblant de débat sur Fessenheim où cette fermeture est-elle simplement le fruit d'une décision politique? On se rappelle cet accord entre le PS et Europe Écologie Les Verts fin 2011 en vue de la présidentielle l'année suivante. Nicolas Benvenu, est-ce qu'il y a eu un débat sur Fessenheim?
Alors, comme vous l'avez rappelé, c'est issu d'un accord électoral qui a eu une traduction dans la loi transition énergétique pour la croissance verte de 2015. Loi elle-même précédée par un débat où, de manière assez exceptionnelle, en tout cas dans le cas français, on a abordé les politiques énergétiques au-delà des cercles d'experts. Mais c'est vraiment une exception par rapport
à ce qui se pratique d'habitude.
À ce qui se pratique si on regarde sur la longue durée, particulièrement en France, puisque le nucléaire fait partie de ces sujets particulièrement épineux, notamment dans notre pays, qui débouchent sur ce qu'on peut appeler, en suivant l'économiste Albert Eichmann, des conflits indivisibles, c'est-à-dire des conflits qui donnent peu de place au débat et à la négociation.
Le plan Messmer en 70, le programme nucléaire civil français, il n'a pas fait l'époque à l'objet ni d'un débat au Parlement, ni d'un débat tout court. Donc la mise en place du programme n'a pas été débattue, la fermeture non plus vraisemblablement. Valérie Faudon, les centrales nucléaires, elles ont une durée de vie limitée. Quand on les a fabriquées, on a dit aller environ 40 ans. Puisqu'on peut choisir quand même à peu près leur date de mort, pourquoi il n'y a pas eu de vraie réflexion pour la fixer de manière la plus cohérente possible?
Alors non, en fait, les centrales nucléaires aujourd'hui, elles sont réévaluées tous les 10 ans. Donc aujourd'hui, la plupart des centrales nucléaires, dont Beaver Valley, qui est la grande sœur de Fessenheim, a été autorisée à fonctionner 60 ans. Et aujourd'hui, on a les premières centrales nucléaires américaines, dont la première en Floride, Turkey Point, qui vient d'être autorisée à fonctionner 80 ans.
Et à chaque fois, ça fait l'objet d'un débat?
Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois, il y a bien une réévaluation des investissements, on change les composants, on refait des travaux. Donc ça fait l'objet d'une évaluation par l'autorité de sûreté, qui est une autorité de sûreté indépendante en France depuis, je pense qu'on va en parler, depuis 2006, donc une autorité administrative indépendante, et qui a l'autorité en France de fermer, de ne pas autoriser une centrale nucléaire à fonctionner du jour au lendemain si elle juge qu'il y a des problèmes. Et ça, c'est important parce qu'on disait, bon, ce qu'il y a eu un débat sur Fessenheim en France, en tout cas, il n'a pas été éclairé, puisque la plupart des Français pensent que Fessenheim ferme pour des raisons de sûreté, alors qu'il y a encore mi-juin, l'autorité de sûreté nucléaire disait que Fessenheim était au-dessus de la moyenne française pour des questions de sûreté. Peu de gens savent qu'on ferme, on crée, on détruit de l'emploi industriel à Fessenheim, puisqu'il y a 1000 personnes qui travaillent et au moment du démantèlement, il n'y en aurait plus que 150. Peu de gens savent que fermer Fessenheim va conduire à une augmentation des gaz à effet de serre en Europe.
Jadeline Garde, de quelles autres informations a-t-on manqué pour Fessenheim dans les deux camps, en fait, pour ceux qui, dans le camp de ceux qui voulaient le fermer, dans le camp de ceux qui voulaient maintenir l'activité?
Il me semble important de rappeler à ce stade de la discussion que la centrale de Fessenheim n'a pas fait l'objet d'un accord électoral à l'époque entre le PS et les Verts par hasard. Hein. C'est une centrale très ancienne qui a 43 ans et qui, au fil des années, a été analysée avec beaucoup de précision par, en effet, l'autorité de sûreté du nucléaire. Et nous, par exemple, à Mediapart, on a publié l'année dernière un document de l'ASN, donc l'autorité de sûreté référente, comme cela a été dit, qui expliquait que la centrale de Fessenheim, avec ses deux réacteurs, était l'une des centrales françaises qui, par exemple, présentait le plus de dysfonctionnements, risquant d'augmenter le risque de fusion du cœur du réacteur nucléaire. Donc, si vous voulez, ce qui est un des accidents les plus graves possibles dans le cas du nucléaire. Et donc, moi, ce que je trouve très frappant concernant Fessenheim, c'est qu'au fond, les arguments concernant les risques environnementaux et les risques de pollution industrielle, hein, liés à l'exploitation de ces réacteurs, au fond, n'ont jamais été prises au sérieux. C'est-à-dire qu'ils ont
elles
été
existent
mis
en tout
avant.
Cas, elles existent. Elles ont été faites par les commissions locales d'information sur la sécurité, par exemple,
Absolument. Ou
même des experts indépendants en parlent depuis longtemps, mais vous trouvez
oui,
qu'elles n'ont pas été intégrées?
C'est cantonné à l'espace écologiste. Vous voyez, l'espace militant et l'espace écologiste mettent en avant ces critiques, ces risques et ces analyses, mais elles n'arrivent pas à percer dans le débat public. Et c'est là où, à mon sens, il y a une responsabilité du personnel politique, des élus et plus généralement des personnes non directement liées au nucléaire, qui est de n'avoir pas été capable de s'emparer, de prendre au sérieux, de travailler sérieusement les arguments de lecture critique des risques de sûreté liés à Fessenheim. Il me semble que c'est valable pour toutes les autres centrales nucléaires françaises.
Valérie, je voulais dire que c'est pas vrai du tout, hein, puisqu'il y a même 2 ans, l'autorité de sûreté nucléaire a déclaré même Fessenheim parmi les 3 centrales les plus sûres en France. Hein. Et encore, je me réfère à leur déclaration du 16 juin.
On va vous entendre, Jadeline Garde, juste après.
Exactement.
Ouais. Allez-y, pardon.
Et je me réfère encore à leur déclaration du 16 juin dernier, où ils ont dit que Fessenheim était au-delà de la moyenne des centrales françaises dans la sûreté. Voilà. Et s'il y avait eu le moindre problème, l'autorité de sûreté nucléaire n'aurait pas autorisé Fessenheim à fonctionner.
Jeanne Lingard, je vous laisse réagir et puis on reprendra le débat vraiment sur la question du débat démocratique autour du nucléaire.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autorité de sûreté du nucléaire utilise toute une série de critères hein, pour évaluer l'autorisation de fonctionnement d'une centrale. Nous, en l'occurrence, c'est un document de l'ASN hein, que nous avons publié. Donc, ça vient directement de l'autorité de sûreté. Donc, c'est un document absolument véridique. Hein. C'est simplement que l'autorité de sûreté nucléaire elle-même est prise par un jeu de contraintes et également dépendante, et peut-être qu'on va en parler après, ça me semble très important, l'autorité de sûreté du nucléaire est dépendante des informations qui lui sont fournies par EDF sur l'exploitation de ces centrales. Et il y a bien d'autres exemples où on voit que des incidents au sein des centrales nucléaires sont sous-déclarés par EDF à l'autorité de sûreté. Donc oui, il y a vraiment un problème d'opacité et de manque d'informations pour alimenter un vrai débat démocratique sur le nucléaire.
Un vrai débat démocratique, est-ce que c'est possible, Nicolas Benvenu, vous qui nous rappeliez que le programme nucléaire civil français n'a pas fait l'objet de débat au Parlement. D'ailleurs, qui l'a mis en œuvre alors? Est-ce que ce sont des industriels, des experts? Qui a eu la chance de pouvoir donner son avis à l'époque et d'en débattre? Et pourquoi ces méthodes-là perdurent aujourd'hui?
Alors, est-ce que c'est possible? On peut vraiment profondément en douter pour une question assez structurelle, en fait. Qui tient aux caractéristiques même de l'équipement ou de la technologie. Hein. Je vais m'appuyer là sur les travaux d'un sociologue qui s'appelle Langdon Wiener, qui à 40 ans a publié un papier extrêmement important sur est-ce que les objets techniques font de la politique, qui était à l'époque une provocation, puisqu'on sortait de longs débats sur la neutralité des objets, finalement. Est-ce qu'on peut s'en servir de manière positive ou négative? Là, il nous disait, non, les objets ont des caractéristiques qui font qu'elles sont intrinsèquement politiques. C'est-à-dire qu'elles emportent un ordre du monde qui leur est lié, qui est lié à leurs caractéristiques.
Et c'est le cas du nucléaire.
Et dans le cas du nucléaire, cas sur lequel s'appuie Wiener, il nous dit que c'est impossible de le marier avec une approche et une gestion démocratique parce que ça appelle des régulations qui sont cantonnées à des cercles de spécialistes, à une élite technocratique en quelque sorte. Hein, je cite.
Il le dit pour le regretter à l'époque ou il le dit pour dire que c'est un fait ?
Il le dit pour le dire que c'est un fait. Il étudie le document en disant si vous acceptez les centrales nucléaires, vous acceptez aussi une élite techno-scientifico-industrialo-militaire, ce qu'on a appelé en France. Les nucléocrates, dans un livre du journaliste Philippe Simonot, qui est déjà ancien puisqu'il date de 1978. Donc on voit qu'il y a un frottement entre la technologie et puis un mode de gestion ouvert, transparent, justement pour des questions de sûreté et de sécurité, et que c'est un objet sur lequel on bute lorsqu'on veut discuter de manière plus large, en quelque sorte.
Valérie Faudon, le nucléaire est intrinsèquement politique. Le nucléaire est aussi une industrie qui s'est imposée grâce au secret défense ou au secret des affaires, donc intrinsèquement politique et intrinsèquement opaque.
Alors moi, je suis pas entièrement d'accord. Alors je pense qu'en effet, dans les années 70, on prenait pas les décisions comme on les prend aujourd'hui. Je pense qu'on dit on a peut-être pas eu un débat démocratique sur le nucléaire, mais à cette époque-là, on n'en a pas eu non plus sur le TGV ou sur la mise en œuvre des centraux numériques en téléphonie. Voilà. Par contre, il a été vraiment pionnier, puisque dès le début des années 80, Pierre Mauroy crée les commissions locales d'information dont vous avez parlé, qui sont quand même un premier stade de démocratie participative en France.
Il faut rappeler ce que c'est. Ils peuvent demander, par exemple, des rapports aux médecins.
Oui, ce sont des commissions qui rassemblent des élus et des représentants d'associations où les journalistes de la presse quotidienne régionale sont présents près des sites nucléaires et où, justement, ils peuvent avoir demander à visiter les sites et avoir accès à toutes les informations concernant le site. Donc ça date du début des années 80. Donc, de ce point de vue-là, c'était vraiment une industrie pionnière. Et un autre point que je voulais vous dire, donc depuis la loi de 95 qui a institué la Commission nationale de débat public, on débat beaucoup du nucléaire. Et pour vous donner une idée, depuis 2003, il y a eu plus de 11 débats qui ont concerné le nucléaire, que ce soit des débats de politique énergétique
c'est
ou des débats d'installation.
Débat
alors, il faut savoir
2003.
Que depuis 2003, il y a eu 130 débats en France, donc un débat sur 10 en France aujourd'hui concerne le nucléaire.
Avec l'écueil qu'évoquait Jadeline Garde, qui est que souvent ce ne sont que les militants anti-nucléaires qui participent.
Un vrai enjeu, absolument.
Alors Jadeline Garde, c'est vrai que s'il n'y a pas eu de débat démocratique sur le lancement du programme nucléaire, en revanche, on a l'impression d'un frémissement sur la question des déchets nucléaires. Donc la Commission nationale du débat public, c'est vrai qu'elle a organisé un débat, c'était l'année dernière, entre avril et septembre, sur le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, mais là les opposants à CIGEO, le dossier sur lequel vous avez travaillé récemment à Bure en Moselle, n'ont pas voulu y prendre part. Localement, la question du débat est aussi difficile à mettre en œuvre.
Oui, ça a été localement. Il y a eu en effet la décision politique de plein de personnes en Meuse, hein, puisque Bure se trouve entre la frontière de la Meuse et de la Haute-Marne, de ne pas participer au débat, mais c'était en fait la réaction au fait qu'ils avaient été privés de la décision, privés de pouvoir être associés à la décision d'installer sur ce territoire le centre d'enfouissement, le futur centre d'enfouissement de déchets nucléaires.
Décidé longtemps auparavant.
Voilà, et en fait avec une sorte d'entourloupe, si vous voulez, qui n'est jamais passée, qui est qu'à l'époque avait été voté par le Parlement le fait de décider de lieu de recherche. Est-ce que ce site-là serait le bon site pour stocker les déchets nucléaires les plus dangereux du système français ? Et en fait, le lieu de recherche est devenu le lieu d'enfouissement. Et donc là, ils se sont sentis privés de la décision, de la délibération et de la possibilité de décision du choix de l'emplacement, si bien que, en effet, lors du dernier débat organisé par la Commission nationale du débat public, ils ont boycotté le débat en geste de protestation.
C'est vrai qu'il faut rappeler qu'il y a maintenant un peu plus de 10 ans, des municipalités les plus directement concernées par le projet d'enfouissement de Bure avaient soumis au vote en conseil municipal l'installation du centre de stockage géologique et que certaines municipalités, je pense à la commune de Bonnet, avaient voté contre. Nicolas Benvenu, quand on n'a pas demandé leur avis aux riverains et globalement à tous les Français pendant 30 ans, ça revient grosso modo de leur demander leur avis là maintenant, ça revient à leur demander de choisir la couleur du mur d'enceinte. C'est ce que vous me disiez par téléphone en préparant cette émission.
Il y a une partie, effectivement, du raisonnement qui est un peu celui-là. Et la question des déchets radioactifs, et on pourrait des déchets nucléaires, est un point très intéressant par lequel la question nucléaire est rentrée au Parlement, puisque les décisions n'étaient pas passées par le Parlement lorsqu'on a engagé le programme électronucléaire français.
Mais même encore aujourd'hui, la programmation annuelle de l'énergie, elle se promulgue par décret. Donc le Parlement ne prend pas au débat.
Il y a quand même un peu plus de discussion. Mais bon, je reviens, si vous voulez bien, sur les débats dont on parlait à travers les commissions locales d'information ou même les débats publics. Ce qu'on peut dire de ça, effectivement, c'est que quand on les observe, comme je l'ai fait, ou quand on les anime, c'est que on y aborde un certain type d'enjeux. Un certain cadrage des débats qui ça donne lieu à un certain cadrage des débats et certains aspects ne sont pas abordés, ce qui fait que certains opposants estiment que c'est pas un véritable débat mais un simulacre de
quels
débat
aspects
auquel ça donne lieu. Mais des questions que vous avez évoquées sur la sincérité de l'information, la transparence, le débat public de type CNDP s'est heurté au secret défense au moment où le débat public a été abordé. Donc, ce que je vous disais en préparant l'émission, c'est que certains problématisent la manière même dont on organise ces débats, même s'ils sont mis en place par une autorité administrative indépendante qui peut le faire de manière la plus sincère du monde. Ce qui est à débattre, finalement, n'est pas suffisant pour ces groupes-là. Et donc, ce qu'ils portent, en fait, c'est une vraie problématisation du débat et de la démocratie. Et c'est ça qui est vraiment, à mon sens, intéressant et qu'il faut savoir écouter.
Mais Valérie Foudon, d'ailleurs, dans le cadre de la gestion des déchets nucléaires, de quoi on parle quand on parle d'information? Il y a une énorme part d'incertitude puisque ce qui rend, et de risque puisqu'on parle de quelque chose qui n'existe pas encore, qui est prévu pour durer des centaines d'années au moins. Le plutonium met 24 000 ans pour perdre la moitié de sa réactivité. La période de nuisance de l'uranium, elle est estimée à 4 milliards d'années. Ça veut dire que même ceux qui organisent ce projet, qui le mettent en œuvre, en fait, ils n'ont pas l'information. Alors, ils ne savent pas ce qui va se passer.
On a quand même beaucoup d'informations. On connaît les mines d'uranium et comment les radionucléides migrent dans les sols des mines d'uranium. On a des exemples aussi. On connaît très bien cette roche qui a plusieurs dizaines de millions d'années. Et c'est d'ailleurs le travail qui est fait actuellement depuis 20 ans au fond du laboratoire de Bure qui est à 500 mètres sous terre. C'est des études de migration dans la roche et sont aussi des études c'est principalement ça. Enfin, c'est principalement des études de migration dans la roche. Donc, on a toutes ces études sur lesquelles s'appuyer. Alors,
mais des études qui ne peuvent pas dire ce que la roche, comment la roche va réagir dans ne serait-ce que 2000 ans.
Cette roche, elle est stable depuis plusieurs millions d'années. Voilà. Donc, on a quand même une assez bonne idée. En faisant des études sur cette roche, de comment elle va réagir.
En tout cas, il y a quand même une part de risque qu'il faut intégrer dans l'expertise.
Absolument. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'expertises, il y a des expertises étrangères, il y a énormément d'expertises. Comme je vous dis, il y a 20 ans de recherche et développement sur le laboratoire de Bure. Je voudrais revenir au débat sur les déchets radioactifs, parce que moi, j'y ai participé, et j'ai été extrêmement choquée sur la façon dont ça s'est passé. Donc, le premier qui concernait le débat CIGEO, qui était en 2013, je crois. Donc, dès la première réunion, la réunion a été empêchée par des manifestants. Donc, il n'y a eu aucune des réunions qui étaient prévues qui n'ont pu se tenir. Il faut savoir qu'il y a des gens qui viennent à ces réunions pour s'informer et puis se retrouvent tout d'un coup au milieu d'une situation où ils ne peuvent pas écouter les experts qui se sont déplacés et venus. Ça avait commencé avec le débat sur les nanotechnologies en 2010, où il n'y a eu quasiment aucune réunion qui pouvait se tenir.
Mais vous avez entendu ce que dit Jade Lingard, c'est-à-dire que tous les opposants qui n'ont pas voulu que les réunions se tiennent ont dit ça fait de toute façon, le projet est acté, donc en fait, simulacre de démocratie.
Sur le dernier qui s'est tenu, il y a eu énormément de sujets sur lesquels on attend des décisions, en particulier le recyclage des déchets très faiblement radioactifs. Moi, j'étais à une réunion à Lille, donc il y avait des manifestants, et je peux vous dire que la présidente du débat public, c'est quelqu'un qui a été extraordinairement à l'écoute, elle a travaillé de longs mois pour écouter tout le monde. La première réunion, on avait des jeunes manifestants qui chantaient et qui étaient là pour manifester contre Emmanuel Macron. Donc ça n'avait strictement rien à voir avec le débat public. Voilà. Donc c'est extrêmement difficile, et je pense que dans une situation de débat république, quand on est face à une commission qui est vraiment très à l'écoute, parce que je vous assure que la magistrate qui était responsable de la commission était très à l'écoute, empêcher les réunions, pour moi, c'est vraiment pas un modèle de démocratie. Et ça pose la question aux industriels du nucléaire, mais qu'est-ce qu'on doit faire en fait, quels sont les systèmes à imaginer et à inventer pour que le débat public puisse avoir lieu.
Nicolas, bienvenue.
Oui, c'est sûr, ça oblige à une profonde réflexion sur la manière dont on aborde ces questions. Et c'est ce que je disais tout à l'heure lorsque je parlais de problématisation des procédures de débat et même de la démocratie au bout du compte. C'est-à-dire, qui a le droit de participer aux régulations qui les concernent ? C'est une question assez profonde et assez générale. Pour pouvoir faire ça, on a besoin de procédures. La procédure de débat en est une. Elle fonctionne d'une certaine manière en intervenant à un certain moment dans la phase d'élaboration d'un projet. Certains estiment que les moments de débat, les commissions locales, arrivent trop tard. Et donc il n'y a effectivement plus rien à débattre. Et c'est ça qu'il faut savoir écouter. Donc c'est à quel moment et sur quoi exactement on peut intervenir. Je vais m'appuyer là sur les travaux vraiment passionnants sur les déchets nucléaires de Yannick Barthes, qui a étudié la loi de 91, dite loi Bataille, qui permet en fait, lorsque le Parlement français se saisit de cette question, de se donner 15 ans pour ouvrir un espace de choix, explorer d'autres solutions que l'irréversibilité technique qui avait été décidée, c'est-à-dire l'enfouissement en couche géologique profonde. On se donne 15 ans pour refaire de la recherche, pour discuter, et puis reprendre des décisions, faire un débat.
Au bout et de donc faire de la politique, en fait.
Et faire de la politique. Faire de la politique, c'est avoir un espace de choix. Le nucléaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, par ses caractéristiques, appelle une expertise qui crée des irréversibilités techniques. Mais ça frictionne vraiment beaucoup avec la politique et ça empêche d'ouvrir des espaces de choix. Ce qu'on a montré en adaptant les procédures par cette loi expérimentale, loi 91 de Bataille, c'est que les procédures, la manière dont on se saisit de ces enjeux, doivent être adaptées pour pouvoir aborder profondément ces questions au-delà des cercles de spécialistes habituels.
Je voudrais qu'on entende Jadeline Garde sur son enquête avec Marie Barbier pour Mediapart et Reporter, mais Valérie Faudon pour parler de la chronologie de l'histoire, le fait que le débat souvent arrive trop tard. Là, on a appris, c'était fin juin, c'est tout récent, qu'EDF renonçait à installer ses nouvelles piscines de stockage des déchets nucléaires à Belleville-sur-Loire. Donc c'est dans le Cher, mais c'est à peine si on savait avant qu'EDF avait ce type de projet. C'est-à-dire que des militants, des journalistes avaient remarqué un certain appétit foncier de l'entreprise publique, mais personne n'était en mesure de dire précisément ce qu'elle voulait faire, par exemple de 400 hectares de terre ici et là. Pourquoi ça, on ne le sait pas avant ? Pourquoi c'est pas plus transparent ?
Parce que EDF n'avait jamais décidé de construire une piscine à Belleville, donc la décision n'avait pas été prise. Le projet était en cours d'instruction, mais pour soumettre un projet aux citoyens, il faut déjà avoir un projet. Quand on arrive, il faut avoir quand même quelques éléments. Donc mais en effet, c'est extrêmement compliqué, parce que quand on arrive avec des dossiers incomplets, ben, les gens disent, mais votre dossier, il est incomplet. Ben oui, puisqu'on est encore en train de travailler dessus.
Voilà. Oui, mais quand
on arrive avec un dossier complet, les gens disent, bah, vous êtes déjà allé trop loin. Ouais. Donc c'est extrêmement compliqué. C'est choix qu'on apprend en faisant, voilà, et c'est quelque chose qui se fait. En effet, les citoyens disent, il faut faire ça plus tôt, on n'a pas encore les éléments, puisqu'on n'a pas encore travaillé dessus. Hein.
Voilà. Jadeline Garde, l'éditorial d'Hervé Kempf du site Reporter, qui présente votre travail d'enquête avec Marie Barbier, il précise bien qu'il ne s'agit pas dans cette enquête de dire si les militants de Bure ont tort ou raison, si le projet Géo est bon ou mauvais, mais de rappeler qu'en démocratie, l'expression d'avis contraire est légitime et nécessaire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est ce que dit, alors c'est difficile de résumer en quelques mots votre très longue enquête, mais à Bure, l'expression d'avis contraire est, si ce n'est malvenue, elle est dangereuse.
En fait, nous, ce que nous avons découvert, c'est que dans le cadre d'une information judiciaire qui a été ouverte il y a quelques années concernant une dizaine de personnes pour des faits liés à une manifestation anti-nucléaire à Bure, à partir de cette information judiciaire, il y a une véritable machine de renseignement, en fait, sur le mouvement anti-nucléaire qui a été mise en place par la justice, avec des méthodes d'enquête extrêmement intrusives, focalisées sur la surveillance des militants politiques qui sont traités comme de véritables ennemis de la démocratie, je cite, par la gendarmerie. Et donc c'est vrai que si on s'interroge sur la dimension démocratique du débat sur le nucléaire, moi je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de la manière dont se passe la mise sous surveillance de tout un territoire, qui est ce territoire autour de Bure, autour du futur site d'enfouissement de déchets nucléaires. Nous, ce qu'on a découvert, si vous voulez, c'est quand même très impressionnant, c'est-à-dire que en l'espace de 2 ans, 85 000 conversations et messages SMS avaient été lus ou écoutés par les gendarmes, que 29 personnes et lieux avaient été mis sur écoute, certaines pendant quasiment un an, que tout cela avait coûté au moins, selon nos estimations, 1 million d'euros, que si en 2 ans d'information judiciaire, pour vous donner un dernier chiffre, en 2 ans d'information judiciaire, si on additionne tous les temps d'écoute de téléphonique, hein, de toutes les personnes qui ont été écoutées, ça équivaut à 16 années d'écoute cumulée. Donc vous voyez, il y a tout un territoire en fait qui est soumis à un niveau de surveillance qui est difficile à imaginer, hein, depuis l'extérieur, et ce qui pose un enjeu de démocratie, moi, de mon point de vue, hein, pas uniquement pour le mouvement anti-nucléaire qui est complètement écrasé sous cet étau judiciaire, mais plus généralement pour le reste de la société. C'est-à-dire, c'est vraiment un enjeu de protection de la sphère privée de nos vies, qui est quand même à la base de la démocratie. Et aujourd'hui, ce qui se passe autour de Bure, c'est l'inverse de cela, avec par ailleurs des contrôles d'identité permanents des habitants, y compris les habitants qui ne sont pas particulièrement des militants, des réquisitions successives et sans interruption de la part du procureur de la République, du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, qui autorise en fait les gendarmes à contrôler en permanence les habitants qui habitent sur ce territoire, alors qu'en droit, en fait, il faudrait que ces réquisitions limitent dans le temps ces contrôles d'identité. Enfin, c'est pour vous donner quelques exemples, il y en a 1000 autres, et c'est vrai que nous, ça nous interpelle, avec ma collègue Marie Barbier, quand on a travaillé sur ce dispositif de surveillance, il y a un avocat qui a été placé sur écoute, son téléphone a été géolocalisé, dans le dossier d'instruction de cette information judiciaire, on découvre des échanges SMS entre des avocats et leurs clientes. Si vous voulez, il y a plein de lignes rouges qui normalement doivent garantir les droits des personnes qui sont franchis dans le cadre des enquêtes sur Bure. Oui. Et ça, c'est profondément lié au contexte du nucléaire. Donc vous voyez, la question de démocratie, elle se pose pas uniquement dans les débats préalables aux installations, elle se pose dans la manière dont la justice et les gendarmes et la police traitent les opposants.
C'est pas pour rien que ces opposants changent plusieurs fois de prénom en une année. Nicolas Benvenu.
Oui, j'aimerais revenir sur le moment auquel on organise ces débats, puisque là on parle des installations qui sont déjà décidées, et on envoie au feu en quelque sorte des porteurs de projets qui sont bien mal équipés pour aborder ces enjeux-là, avec des marges de négociation qui sont en réalité assez restreintes en fait. Donc c'est des grands moments d'information sur lesquels, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des tensions liées au secret défense, etc. Mais en amont de décisions d'implantation, il y a des orientations de politique énergétique qui ne relèvent pas, en théorie en tout cas, de ceux qui construisent les installations. Donc là, c'est purement des décisions qui relèvent de gouvernements qui sont élus, du Parlement, et là, on a des marges de manœuvre. Mais ce qu'on constate sur ce point-là, sur ces moments de débat d'orientation, déjà, c'est pas une tradition française très forte d'avoir des grands débats historiquement sur des lois d'orientation. Quand on regarde la loi d'orientation sur l'énergie, des politiques énergétiques de 2005, elle a été précédée par un débat en 2003. Un des premiers grands débats sur la politique énergétique, la première décision qui a été prise par le gouvernement, c'est d'exclure du champ du débat les enjeux liés au nucléaire. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le jour même ou le lendemain, toutes les ONG on dit, puisque c'est ça, on quitte la procédure et on organise notre procédure dans laquelle on parle de tout, parce que rien ne doit être tabou dans un tel débat. Ils ont créé leur propre procédure qui s'appelait « vrai débat », qui laissait penser de manière assez évidente que l'autre était un faux ou un simulacre, comme j'ai dit tout à l'heure.
Et la convention citoyenne pour le climat n'a pas non plus jugé bon de se pencher plus avant sur le nucléaire. Une seule mention, et encore entre parenthèses, comment ça se fait aussi ça?
C'est ce que je dis tout à l'heure, c'est des débats qui sont extrêmement compliqués. Donc, pour pouvoir aborder globalement des enjeux, on laisse à l'abri, en quelque sorte, ces questions-là pour avancer. C'est ce qui s'est passé aussi au moment du Grenelle environnement, en 2007, où on a dit, on parle de tout, sauf du nucléaire, et quelques autres problèmes comme les OGM, mais on se met d'accord sur le reste. Si vous parlez du nucléaire, des OGM, des nanotechnologies, en fait, vous consommez tout le temps de débat et vous n'avez plus rien pour parler des autres sujets. Et vous êtes à peu près sûr de ne pas déboucher sur un consensus sur ces questions-là, parce qu'elles sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, tranchées avec des conflits indivisibles très durs.
Valérie Faudon.
Alors, oui, je voulais dire que, parce qu'on ne l'a pas dit, mais le projet de Bure, il a fait l'objet d'un débat à l'occasion de la loi de 2006 et d'une loi qui est passée et qui a été votée par le Parlement, d'une revue de l'autorité de sûreté. Donc, le projet de Bure a vraiment suivi un processus démocratique, je dirais, exemplaire. Hein. Il a été mis au débat plusieurs fois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a étreigné des processus républicains de débat et de vote démocratique qui sont absolument exemplaires. Donc je veux bien que des gens qui ne sont pas d'ailleurs forcément des locaux, parce qu'on a une ZAD à Bure qui sont des gens qui ne sont pas sur le site, mais c'est évident que les collectivités territoriales ont été mises dans le débat dès le départ. Voilà, donc je ne voudrais pas laisser croire que ce n'est pas le cas.
Et alors, surtout
sur les débats, oui, alors moi, les deux débats nationaux que j'ai vécu, c'est-à-dire celui de 2012 et puis celui sur le fameux décret sur la PPE, alors c'était le contraire en fait. En effet, le débat sur le nucléaire a préempté tous les autres débats, ce qui est quand même paradoxal puisque, comme vous le savez, le nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre. Donc on a débattu, alors qu'on était censé débattre sur quelles sont les priorités sur le climat, sur comment remplacer une énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre par une autre énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre. Donc c'était quand même assez stérile comme débat, hein, puisqu'on débattait de tout, sauf comment on allait se débarrasser du pétrole et du gaz en France, qui sont les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre. Donc je pense, mais je ne suis pas du tout évidemment à l'origine du débat sur la Convention citoyenne, que l'état d'esprit, c'était de comment se fixer enfin et débattre sur les vrais enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est pour ça qu'on a inclus... On exclut, le nucléaire n'en faisait pas partie.
Et pour se demander s'il peut encore y avoir un vrai débat démocratique sur le nucléaire, Jade Lingard, autre question, quelle question justement reste-t-il à débattre sur Bure? On a l'impression que tout a été dit déjà.
En fait, le problème, si vous voulez, c'est que sur Bure, comme sur d'autres questions nucléaires, la question des alternatives, en fait, au projet ne sont jamais véritablement étudiés. Donc, par exemple, dans le cas du débat public précédent Bure, pour terminer ma phrase, des experts ont donné des avis contraires, ont critiqué le manque de sûreté du projet CIGEO, ont dit qu'il y a d'autres manières de faire. Leur parole n'a pas été prise en compte. Et si on regarde aujourd'hui comment on débat de tout cela, débattre du nucléaire, c'est regarder... comment est-ce qu'on pourrait faire autrement, en réalité, pour produire de l'électricité? La raison pour laquelle la Convention citoyenne n'a pas évoqué la question du nucléaire, c'est que l'objet de ces débats, c'était la réduction des gaz à effet de serre. Comment est-ce qu'on réduit les gaz à effet de serre avec des énergies renouvelables, mais surtout avec des économies d'énergie? Donc, en fait, c'est finalement l'abandon du nucléaire auquel, sans doute, la société française arrivera un jour, sera la conséquence, en fait, de ces décisions d'économiser l'énergie et de mettre en place des sources d'énergie qui ne sont jamais 100% renouvelables, mais qui sont beaucoup plus renouvelables et beaucoup moins dangereuses que l'électricité nucléaire, du fait de ce problème de déchets qui va être un problème lancinant pour encore des milliers d'années pour la société française, et également évidemment le risque de l'accident nucléaire qui certes est improbable, mais quand il se produit, ses effets sont irréversibles, comme on l'a vu à Fukushima. Donc c'est aussi toute la question, si vous voulez, toute la question du débat autour des enjeux d'écocide, qui sont la bonne manière, enfin en tout cas une autre manière de parler du nucléaire, et on peut l'espérer d'une façon plus démocratique.
C'est pour ça que les maires aujourd'hui des municipalités autour de Bure disent qu'ils préfèrent léguer aux générations futures un problème plutôt qu'un danger inconsidéré, enfin quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Très rapidement, Valérie Faudon.
Oui, moi je trouve qu'on est vraiment dans un débat caractéristique des problèmes qu'on a sur le débat sur le climat en France. Le problème du climat, ce sont les énergies fossiles. Donc c'est le pétrole et le gaz. Et on passe notre temps à opposer nucléaire et renouvelable, alors que tous les scénarios, y compris ceux du GIEC, nous disent qu'il faut toutes les sources d'électricité décarbonées. Il faut nucléaire et renouvelable.
Vous rentrez dans le débat sur l'énergie. Essayons de terminer sur le débat
le débat sur comment on va lutter contre les réchauffements climatiques n'a pas lieu. On passe son temps à débattre nucléaire et renouvelable.
Nicolas Benvenu, on a l'impression que ces accusations d'opacité, on peut aussi les retourner sur le renouvelable aujourd'hui. Je pense au grand projet d'éolien en mer, à l'Île-Dieu par exemple. Les journalistes qui travaillent localement sur le dossier depuis longtemps n'arrivent pas à obtenir du consortium qui a remporté l'appel d'offres, ni le prix prévu de rachat d'électricité et puis toutes les informations importantes, les études d'impact, etc. ont été dévoilées lors de l'enquête publique. Mais quand l'enquête publique a eu lieu, là encore, ça faisait déjà 5 ans que l'appel d'offres avait été remporté et que le processus avait été enclenché. Donc est-ce que finalement on n'est pas aussi pour les énergies renouvelables dans un même débat sur l'opacité, la transparence, l'information juste?
Alors tous ces débats sont relativement compliqués à mener, hein. Ça c'est une évidence, parce que chaque objet a ses opposants, et des opposants qui savent se mobiliser, qui disposent de ressources, hein. Toute la sociologie des mobilisations là, le décrit vraiment très bien. Mais je dirais que certains objets sont plus ou moins débattable en quelque sorte. C'est-à-dire que j'ai parlé tout à l'heure de conflits indivisibles. Je ne pense pas qu'on soit dans ce cas avec l'objet technique des renouvelables. On est plutôt dans des conflits indivisibles sur lesquels il est beaucoup plus facile de faire des négociations.
Le prix de l'électricité, des choses...
En tout cas, si une éolienne en mer pose un problème environnemental à un endroit, on peut l'enlever sans dénaturer l'ensemble du parc. Vous ne pouvez pas faire le même type d'aménagement avec une centrale nucléaire que vous êtes obligé d'accepter dans son entièreté, en fait, en réalité. Donc, il y a évidemment beaucoup de débats, beaucoup de progrès qui sont faits. Vous l'avez dit tout à l'heure, madame, on est en train d'expérimenter aussi cet équipement d'une démocratie qui est plus dialogique. On fait tous comme on peut avec ça. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on réfléchit à des discussions qui viennent pour le siècle. C'est des discussions qu'on doit avoir pour 100 ans. Et il faut réfléchir à la solution qui est la plus efficace pour faire la meilleure transition possible, effectivement.
100 ans, 1000 ans et plus, on n'a pas d'autre choix que de débattre en essayant d'intégrer nos marges d'ignorance. Merci beaucoup à vous trois, Nicolas Bienvenu, Valérie Faudon et Jade Lingard, d'avoir été avec nous. Le magazine du week-end, une émission préparée par Antoine Dulster, Fanny Richer et Lucas Lazo, réalisée par Luc-Jean Reynaud. À la technique, c'était Anthony Thomasson. Bon dimanche à tous.